Alors, les quelques premiers textes, en fait, quand j'expose, il fallait souvent partir en quête de textes écrits par X ou Y pour présenter son exposition. Et à un moment donné, j'ai décidé de m'en charger moi-même. Et donc, le premier que je vais vous lire a été écrit pour l'exposition que j'ai reçue suite au prix de l'Institut de France, qui a eu lieu en 2009. Et cette exposition s'appelle Anima, et elle ne concernait que les animaux. Et j'ai choisi d'écrire à ce sujet en partant d'une histoire vécue. J'ai appris la photographie avec un chien. C'était la nuit, ou plutôt les nuits. Il m'en a fallu tant pour percer le soir et distinguer les ombres. J'ai appris la photographie avec lui qui ne disait rien, mais qui voyait tout. Nous marchions côte à côte, délestés de la laisse, vestige d'autorité de l'imbécile qui arbore le bonheur minuscule d'ordonner la route à un être qui la connaît déjà. Nous, la route, nous l'inventions à chaque détour. Notre chemin était fait d'arbres, de prairies, de vaches et d'oiseaux. En guise d'homme, nous traversions l'asile et la prison, étrange itinéraire silencieux semé de démence. Cela rendait d'autant mieux à la nature ses vertus, loin des cris parfois poussés d'une fenêtre oubliée. Les hurlements résonnent encore en moi. L'imaginaire se déclenchait dès les premiers battements d'un tube néon découpant une silhouette perchée en haut des murs. Ces gens, que l'on dit fous ou dangereux, étaient les uniques spectateurs de mes escapades nocturnes. Aux yeux des miens, ces sorties étaient une perte de temps. Seuls ces enfermés savaient alors la liberté qui était la mienne à être là, au milieu des ombres. Le bruit de nos pas soutenait le métronome de mes peurs. Arpenter la nuit exige d'abandonner nos appréhensions pour en saisir tout l'éclat. Le silence est plein d'images, et nous sommes sourds à ces rumeurs. Nous n'y voyons rien. Nous imaginons le pire au premier froissement et nous nous réfugions docilement dans les craintes de nos certitudes apprises. Nous avons tant marché, lui et moi, désespérés ensemble de n'être qu'à deux et tellement soulagés de nous savoir présents l'un à l'autre. En mes mélancolies, il n'y avait souvent que lui, tellement souvent. Mais il était toujours là, l'œil clair et la patte enthousiaste. L'échange était au-delà des mots. Nous partagions une compréhension mutuelle de ce silence à admettre nos faiblesses, à oser prendre à la vie sa part d'inconnu propre à nous révéler. Et vivre, c'était marcher. Un soir, il s'est arrêté au milieu de la route, les oreilles en équerre. Il voyait plus loin que mes yeux, il entendait ce que je ne pouvais voir. En vain, j'ai scruté l'absence. Les yeux seuls ne sont pas suffisants pour cueillir de la nuit les ténèbres qu'elle nous tend. C'est aux ténèbres à générer leur propre lumière, m'a confié un ami écrivain. Cette nuit-là, les instincts en éveil, j'ai vu danser les ombres. Les ténèbres étaient disposées à se confier au prix de mon abandon en ces vertiges. J'ai alors saisi l'appareil photo comme on prend une boussole, réinventé mes propres points cardinaux et accepté que l'aiguille soit guidée par mes peurs. La destination n'est jamais aussi importante que franchir le chemin pour l'atteindre. Le sens profond apparut enfin comme évident. La réponse était en vérité la question. J'ai appris la photographie avec un chien. Peut-être devrais-je dire que j'ai reçu de ce chien ce que me révèle depuis la photographie, ma propre vie. Il s'appelait Ico. Le second s'appelle Romanza et c'est un texte que j'ai écrit pour l'exposition qui s'est tenue au musée de la photographie à Charleroi. Et qui était, je suis encore vivant, mais un peu une rétrospective de ce que j'avais fait. C'est à ce jour l'exposition la plus importante que j'ai eue. Se dévaster pour enfin renaître. Toutes ces histoires à l'aune desquelles j'ai existé. Toutes ces histoires à vivre d'autres vies, sentir d'autres mains. S'unir solitaire, tromper la solitude. Silence peuplé d'absence, tant de femmes, d'enfants, d'animaux. Des hommes aussi, âgés souvent. J'ai aimé. Tant aimé. Tout s'arrête, commence, vole en éclats. Assez pour éclairer la nuit, assez pour la croire aurore quand s'endort le crépuscule. Le souvenir n'a pas d'odeur, à peine une image. Les larmes, ça rend flou, forcément. J'ai tant aimé ces chiens, ces chats, ces vaches et ces ânes. Je les ai retrouvés si souvent. Toujours ils m'attendaient, toujours ils m'apaisaient. Et mademoiselle multiple, si folle à nos débuts, si amère à son départ, son dos à nouveau s'éloigne et moi qui la regarde, les bras vides d'elle, soudain disparaît, et laisse au vent le soin d'expirer tant d'amour. Tant que j'en suis tombé de si haut et combien encore, les yeux peinent à suivre ce cœur qui bat, se bat, me bat parfois, mais toujours m'accompagne. Alors je l'aime et je vis. Ce texte-ci est issu de la dernière exposition que j'ai faite à la galerie, à la galerie Agathe Gaillard. Et on souhaitait avec Agathe faire un conte, étant donné que ce serait la dernière exposition de la galerie. Et c'est elle qui m'a mis sur cette idée-là. Et donc j'ai choisi d'écrire un conte autour d'un loup et d'un enfant qui serait en vérité une allégorie du photographe et son sujet. Je suis là, silencieux. Je parle peu. Je n'ai qu'une parole, au contraire des hommes qui ne respectent rien. J'observe la vie alentour, parfois je la prends. Par mes yeux regardent des centaines d'yeux. J'honore chacune de mes proies d'une mort digne des précédentes. Je guette l'instant où les prendre sera leur évidence sans cruauté. Jamais. Elles viennent en moi soulagées. À la fin d'une respiration, quand le cœur bat tranquille, sereine. La mort sous mes crocs est une étreinte, une célébration d'une infinie douceur. Je ne tue pas, je nous unis dans le sang. Les hommes avec leurs troupeaux viennent ici souvent, je le sais, nous le savons, ceux en moi le savent. Aujourd'hui, j'observe un petit homme depuis deux aurores. Il tremble sous l'arbre où il a été oublié. Il est jeune et ignore comment manger l'herbe et les feuilles. Il est couché maintenant. Écrasé par la faim. Je sens la souffrance en lui, la souffrance de tout ce qui l'habite. Les hommes dévorent sans respect. À ceux qui prennent la vie sans dignité ne les attendent que souffrance et résignation. Lui n'est pas comme les autres. Il est triste, seul, abandonné, mais lui ne sent pas la peur de mourir. Je pourrais l'inviter en moi, je suis une famille entière. Je m'approche doucement. Il est trempé de détresse, son corps en pleurs, pareil à l'automne. Sa solitude est infernale, elle doit cesser. Je vais t'accueillir, mon enfant. Enfin, tu seras aimé comme je les ai tous aimés. Et nous voyagerons sous la lune et un soir, nous irons à la terre, ensemble. Je ne te prendrai pas, petit homme. Tes pères ne t'aiment pas, ils t'ont lié. Tu es attaché, je ne peux t'aimer que libre. Notre histoire est au-delà de toute stratégie. Lâche, ils ont fait de toi leur appât. Des hommes s'en viennent, satisfaits de se croire plus intelligents, eux, les villes, qui ont tardé à surgir, espérant te voir répandre. Ils me frappent. Tous. Je sais que tu m'aimes, tu cries pour qu'ils cessent. Tu as réussi à fuir, tu m'as même caressé quand j'ai mordu ta chaîne, qu'au moins l'un de nous soit hors d'eux. Ma salive a le goût du sang, je m'entends me briser, ils frappent. Encore. Hâte-toi. Je ne soutiens plus leurs talons, mon souffle manque. Je tiendrai jusqu'à ce que tu disparaisses sous les arbres, puis je partirai, moi aussi. Adieu, petit homme, je t'aime. Puisses-tu m'emporter sous la lune et vivre dans tes yeux. Les textes suivants, les quelques extraits que je vais vous lire, sont issus d'un recueil que j'ai démarré il y a longtemps et que le confort et la sérénité que m'offre la CASA m'a permis de terminer. Il s'agit d'un recueil, c'est une correspondance fictive d'un petit garçon qui essaie de comprendre le monde dans lequel il vit. Et chaque lettre commence par « Cher monsieur ». À mesure que les lettres progressent, le petit garçon grandit. Ici, je vous en lirai, je pense, 5. Il y en a en tout une trentaine. « Cher monsieur, il faisait froid ce matin. » J'avais déjà vu des regards comme ça, plus forts que des mots. Un peu comme quand on est obligé de rester les yeux ouverts pour ne pas tomber. Ce jour-là, maman, rien qu'en la regardant, j'étais triste aussi. J'aurais voulu dire quelque chose pour changer ça. Elle s'est assise et a fait des nœuds avec ses doigts. Je creusais des tourbillons avec ma cuillère dans le lait de mon bol. Il fallait que je m'occupe les mains, moi aussi. Je relevais la tête. Elle paissait la sienne. on a retrouvé Iko. J'entendais battre mon cœur, tout cela semblait si long. Elle a repris, mais je comprenais mal, les murs se rapprochaient. Iko, enfui, découvert, sur la route, voisin. Maman me regardait, sa main sur la mienne, moi dans ses yeux, j'ai vu que je ne le reverrais plus. La nuit tombait, et moi avec elle. Je suis remontée dans ma chambre, j'avais besoin de m'allonger. Mon chien était là, il ne l'était plus. Je l'avais encore dans ma tête, mais je perdais les images. J'ai regardé les photos, aucune n'arrivait à le faire revivre autant qu'il vivait. Je ne l'aurais même pas vu pour la dernière fois. Je ne comprends pas pourquoi tout finit par disparaître. Je croyais que tout avançait en même temps, je lui demandais même quelle maison lui plairait plus tard. Pour moi, on ajoutait toujours quelqu'un sans avoir à en enlever un autre. Mort. Si on y va tous, c'est que ça doit être bien. Cher monsieur, à l'école, on a parlé de ce qu'on voulait faire dans la vie. C'est drôle, pour les adultes, quand on est petit, on ne fait rien. Madame nous a installés en cercle, Pierre aimerait être vétérinaire pour sauver des animaux, Jérémy a choisi pompier pour avoir son nom dans le journal, Manuel veut reprendre la pharmacie de sa mère, comme ça, il continuerait d'être riche. Madeleine, elle rêve de devenir institutrice pour savoir ce que ça fait. Moi, j'ai répondu « artiste ». Madame m'a regardé. « Mais comme métier, tu veux faire quoi ?»« Artiste ». On ne peut pas vivre en regardant les étoiles, tu sais, ça ne sert à rien. Que veux-tu faire d'utile ? Je lui ai fait le sourire de ceux qui disent avoir compris, et en silence, j'ai maudit le cri qui peinait à s'étouffer. Dans la cour, tout le monde s'est moqué de moi. J'ai l'habitude. Heureusement, ce soir-là, le ciel était joli. De la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé les étoiles, j'ai appuyé fort sur mes paupières pour continuer à les voir et retrouver Vénus. C'est fou tout ce qu'on voit les yeux fermés. Quand les étoiles de mes yeux se sont éteintes, j'ai vérifié que celles du ciel scintillaient toujours. Ça m'a rassuré de savoir que je pouvais compter sur elles. La maîtresse se trompe. Ça sert bien à quelque chose de les regarder. Ce sont les guides de ceux qui savent les voir. Iko doit être avec elle. Il les fixait souvent, tant que le ciel tout entier s'en rappelle. Papa m'a expliqué que les étoiles brillent quand elles meurent et de là-haut, elles montrent le chemin aux marins perdus. Et toi, Iko, quel chemin m'indiques-tu ? Cher monsieur, il est parti, sans dire au revoir à maman. Il ne s'aime plus. Et moi, on me demande de comprendre. Les problèmes d'enfance, c'est de la bêtise d'après eux. Et moi, je ne trouve pas que les leurs soient une preuve de sagesse. Je suis triste pour mon papa. À moi, il a dit au revoir, et moi aussi, parce qu'on s'aime toujours. Je suis le prolongement de maman et papa qui s'aiment, et quand ils ne s'aiment plus, je suis toujours là, entre eux. Un trait d'union involontaire. À vrai dire, ce n'est pas vraiment de comprendre les silences à table. Je les comprends très bien. C'est d'accepter. J'ai tant de mal à croire qu'ils ne seront plus jamais là, tous les deux, ensemble. Dans le hall, après m'avoir caressé les cheveux, il m'a dit les yeux mouillés « Voilà, mon gars !» Et la poignée de porte s'est relevée. Jamais je n'avais à ce point entendu le bruit des tubes néons. Jamais ce couloir n'avait été si grand, je restais là à attendre longtemps. Quoi ? Je ne sais pas. Que la porte se rouvre, que le sol se fende, qu'Iko revienne, que le temps m'oublie, j'attendais n'importe quoi. Impossible, impossible. Il ne restait plus que moi et tout autour pour y tomber. Quand je suis allé me coucher, j'avais appris quelque chose. Quelque chose, je le devine, que j'aurais à apprendre toute ma vie. Pas si difficile à comprendre, mais tellement dur à accepter. Le souvenir. Cher monsieur, j'aime les voyages, surtout en train. Selon la tête des gens, je vois tout de suite s'ils partent en vacances ou au travail. Parfois, je me demande même si certains n'ont pas définitivement perdu leur sourire, comme s'ils avaient oublié comment faire. Alors, pour essayer de le leur rappeler, j'exagère le mien. Parfois, ça fonctionne et ils rigolent, sinon ils me demandent « Tu veux ma photo ?» Je réponds « Pas comme ça. » Si je n'ai personne en face de moi à qui sourire, j'en profite pour regarder les arbres à travers la vitre. Je joue dans ma tête la musique de la partition qu'il dessine en défilant. Les allées de sapins m'enchantent de très jolis thèmes. Chaque fois que le train s'arrête, je me fige, l'œil rivé sur le paysage qu'encadre le pourtour de la fenêtre. Parfois, je dois me reculer d'un siège pour avoir le bon point de vue, mais ainsi, j'ai l'impression de peindre. On pourrait me croire un peu dérangé tant je fixe l'extérieur sans bouger le moindre cil. Et bien sûr, je ne réussis pas toujours une belle toile. Question de décor. Dès l'approche d'une gare, je me dépêche de changer de place pour profiter du meilleur point de vue, celui d'où le tableau sera le plus beau. Il m'arrive de me tromper de siège et c'est ainsi qu'un jour, je me suis retrouvé nez à nez avec le proviseur. Je lui ai expliqué. Il a hoché la tête et je ne saurais jamais s'il a changé de place pour me copier et tenter d'imaginer une plus belle toile que moi ou s'il a simplement cru que j'avais des flageolets dans la tête. C'est étrange comme la plupart des gens pensent pouvoir rêver uniquement dans un lit. Moi, j'aime bien rêver, tant que parfois dans le train, je m'endors. Cher monsieur, un copain est tombé sur une de mes lettres aujourd'hui. Il s'est moqué. Et comme souvent dans ces situations, il a trouvé un public toujours disposé à aider quand ça ne demande qu'à être méchant. Je continue d'écrire assis par terre dans un coin de la cour. Le froid se souvient de moi chaque fois que j'étends les jambes pour éviter les fourmis. Réfléchir, croire en quelqu'un ou quelque chose est toujours considéré comme une faiblesse, un prétexte de moquerie. Ces autres, ils n'affirment rien, n'osent rien, enfermés qu'ils sont dans le seul désir de critiquer quiconque pour aller sortir de leur ennui. Leur seule certitude, c'est de ne jamais rien faire. Je ne veux pourtant pas les détester, pas leur en vouloir, pas les blesser comme ils m'ont fait, sinon c'est moi que je condamne. Mon silence les a d'ailleurs encore plus agacés, jusqu'à me frapper. J'ai les joues rougies et des croûtes de sang sur les mains. Quelle que soit la hauteur de chute, le sol ne sera jamais d'un bon accueil. Le pire, c'est qu'ils sont partis en courant dès qu'ils ont vu mon nez saigner. À leur âge déjà, ils ne veulent pas assumer leurs actes. Ils prennent la liberté pour un défouloir. Depuis que j'ose un avis, je suis devenu la proie des rien-pensants. Dans ce climat de chasse, chacun à l'affût d'une cible, je risque bien de mener une vie de lapin. Il y a une différence, et de taille, entre plaire et aimer. Plaire, c'est se voir sans se regarder dans un miroir, disparaître et ressembler à tous. Un reflet si triste, à peine une ombre. Aimer, c'est... Non, en fait, je ne suis pas bien sûr de savoir. Je ne veux pas de ce monde-là. Je le veux différent. Je refuse de considérer la politesse comme un bâillon quand elle devrait au contraire ne jamais s'excuser face aux injustices. À la réunion des parents, le professeur a dit à ma mère que je n'étais pas vraiment comme les autres de mon âge. Il serait plus normal que je sois davantage avec ces autres. Il serait plus normal que je fasse du sport. Il serait plus normal que je prenne la parole en classe autrement que pour dire des bizarreries. Normal, 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 normal. Il m'agace ce mot à la fin. Et d'abord, je veux l'écrire comme je le veux. Je veux penser comme je veux. Mon vœu, c'est vouloir et ne plus le souhaiter. Ma normalité, selon ce à quoi je crois et non ce à quoi il faudrait me faire croire. Pourquoi cette normalité est-elle définie par la majorité? Je ne trouve pas cela si normal de regarder la télé en soirée pour le lendemain se plaindre de la pauvreté des programmes. Ce qui est normal, c'est d'avoir des envies, de tout réunir pour les atteindre sans nuire aux autres. Ce qui est normal, c'est de courir sous la pluie, surtout si ça permet d'être trempé. Ce qui est normal, c'est d'aimer ses mamies, et c'est normal de le leur dire. Ce qui est normal, c'est d'être seul, pour savoir ce que je veux vraiment. Normal, c'est avoir envie d'être bien, simplement. Normal, non mal, non au mal, non à une normalité faite pour nous réduire à être tout ce dont nous avons peur. Pourquoi la pire chose qu'il me soit arrivée aujourd'hui, c'est d'avoir été lu, et ce soir, ce que j'aimerais le plus au monde, c'est que quelqu'un me lise et me comprenne enfin. Et le dernier texte que je vais vous lire, c'est le... J'ai pris des fragments des Carnets du ciel, qui est mon projet d'écriture ici à la CASA, et j'ai choisi volontairement de prendre les passages que j'espère légers. parce que quelque part, j'aimerais, si j'ai le privilège d'avoir terminé, pouvoir faire une lecture de l'entièreté des carnets que j'associe à une bonne, pour bonne part à mon travail de photographie. Tout ce temps, j'ai couru. Tout ce temps à le rattraper, et la fatigue jamais ne me gagne. Jusqu'à mes sommeils agités, je me rêve vivant. En bord de mer, j'ai toujours été au bord de tout. Le brise lame et prône la nuit. Funambule sur les pierres émoussées, j'avance. J'en oublie la nuit, noire de cendres, si belle d'avoir brûlé. L'eau alentour frappe la cadence du ressac. Le vent soupire la comptine des promesses envolées. L'onde déroule son tapis d'écume, il fait froid. C'est insensé d'être ici. Pour un instant, me voilà Ulysse, sauf que moi, je veux m'y jeter. Les pics en moi, la démesure en trop. Ce soir, je suis l'invité des flots. Mes yeux se plissent, feignant de faire le point. La nuit n'est pas floue. Elle est immense et de si près, on n'y voit rien, si ce n'est notre propre vide. Ma bouche est salée, amer goût de solitude, étrangement addictif. Ou est-ce seulement moi, ce soir encore, qui suis perdu ? Longtemps, j'ai cru l'horizon possible. L'acte désespéré est le plus rayonnant. Il va, tombe ou escalade, sans s'inquiéter du retour, seul compte la nature du départ. D'ailleurs, n'y a-t-il jamais eu d'arrivée ? Seulement des lignes à franchir. Cette nuit-là non plus, je ne suis pas mort. Que de colère. N'est-il pas temps de cesser la comptabilité de la médiocrité pour honorer le merveilleux ? Il y en a tant. Souvent mort-né, écrasé par le manque de confiance, mais cependant, imperturbablement, imperceptiblement, il croît sous les cendres. Et moi, si souvent fasciné par l'horreur, j'en oublie qu'elle aussi peut enfanter de gloire quand on cesse de s'en apitoyer. J'ai tant couru pour poser mes pensées sur cette feuille, tant couru pour que rien ne se perde de tout ce trop que j'ai à te dire, à t'aimer. Combien de fois n'ai-je pas écrit cette lettre dans mon esprit avant que de la voir s'envoler une fois le stylo en main ? Combien de paroles d'or ne dépérissent dans le noir de l'encre ? Il me faut partir. Rendez-vous est pris en matinée. J'emporte deux volumineuses sacoches photo en bandoulière, un casse-croûte au concept diététique novateur et d'emblée voué à l'échec, un sac de couchage à la fermeture cassée, mes chaussures militaires et un couteau de survie aussi inutile que dangereux. En seulement 30 minutes de route, nous arrivons à la Pedrissa. Le sommet culmine à 2029 mètres d'altitude. Pour le moment, nous sommes en bas. Wikipédia en dit ceci. La Pedrissa est une formation granitique située dans le massif de la Sierra de Guantajama, au nord-ouest de la communauté de Madrid. Par sa masse, c'est l'une des plus importantes en Europe. La définition est certes objective, mais je me souviens d'un proverbe japonais pour nuancer l'austérité rationaliste. Les Occidentaux savent exactement où se trouvent les points d'eau sur une carte, mais aucun d'eux ne sait la sensation de s'y désaltérer. Vivre, photographier, pour moi c'est avant tout l'engagement du corps dans l'événement, une affaire de distance, de discernement dans la capacité à s'inscrire avec le flux de la vie elle-même, faire autant confiance au sens qu'à l'intelligence, renouer avec les instincts éclairés. La photographie est une acuité fragile, un rêve qu'il me faut garder, celui du lointain, de sa conquête impossible et nécessaire. Une conquête verticale dont l'issue sera la chute. Mais je ne tombe pas. Le vertige des gouffres est celui des révélations. Me voici au pied d'un précipice, j'ai hâte. On m'a certifié que nous rencontrerions des animaux, chèvres, bouquetins, chevaux, vautours. Mon exigence est de dormir sur place afin de voir l'aurore depuis les hauteurs. Cette authenticité rêvée, il me faudra l'Espagne pour enfin m'autoriser à aller à sa rencontre. Nous gravirons la partie ouest la journée, retour dans la camionnette pour y dormir et lever bien avant les premiers rayons. Difficile d'être concis tant cette sortie fut dense. Entre le moment où nous avons croisé les premières chèvres et chevaux sauvages, celui où, après s'être trouvé bloqué face à une crevasse, mon guide me propose de l'escalader à moi qui viens du plat pays. Fébrile mais fier, je concentre mes énergies tremblantes jusqu'au bout des doigts pour me hisser au sommet du plateau et contempler l'infini qui semblait fait pour m'attendre tant il m'a parlé. Souffle court, nous rentrons dans la nuit, nos pas circonscrits dans la goutte de lumière de la lampe frontale. Le soir, je découvre de nouveaux muscles, du moins Les crampes sont là pour me signaler que je ne m'en servais pas assez. Ça fait beaucoup pour une journée, et probablement pour une seule phrase aussi. La nuit s'est installée tout autour, et nous, dans la camionnette. Il risquait de parler des étoiles sans passer pour un bucolique de bas étage, mais faire l'impasse sur ce ciel-là reviendrait à ignorer l'évidence de la beauté pour se complaire dans l'obscurantisme de nos certitudes à décréter toutes les nuits semblables. Celle-ci fut la promesse de tant d'autres qui jamais ne se ressembleront. Réveil à 5h30, préparation rapide, les courbatures de la veille ont rationalisé la quantité de matériel à embarquer. Mon guide sourit. Je cerne mieux le mot « indispensable » quand il s'agit de le porter. L'ascension est abrupte, lampe au front et cœur dans les oreilles, je n'ai déjà plus froid. Mon guide parle peu et je n'ai de toute façon pas assez de souffle pour lui répondre. Il se retourne fréquemment pour me presser de tenir le rythme. Ce matin ne surgira qu'une seule fois. Assis sur les rochers, nous sommes témoins d'un tuel de bouquetins. Leur corps ne teinte aux premiers éclats d'aurore. La nuit n'est plus. Le ciel se déchire, ensanglanté. Il ressemble à un masque guerrier. À peine le jaune gagne l'hémorragie que le bleu surgit pour signaler qu'il fera bientôt jour. Tout est juste. Je vous remercie.